La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 10 novembre 2014.
En direct de Washington, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Au sommaire, nouvelle attaque dans le nord du Nigeria, bilan une cinquantaine de morts.
Au Burkina Faso, la réconciliation est à l'ordre du jour, alors que le président de l'Union africaine rencontre les protagonistes.
L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Ils sont venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés.
Mohamed Oud Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine.
Au sommet de l'APEC à Pékin, les États-Unis s'engagent à investir en Asie.
Difficile négociation à Oman sur le nucléaire iranien. Un accord devrait être signé dans les 2 semaines.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
Une cinquantaine d'adolescents ont été tués aujourd'hui dans un attentat suicide contre leur collège dans le nord-est du Nigeria, l'un des pires massacres attribués à Boko Haram. Idriss Fall nous en dit plus.
L'explosion s'est produite dans un collège public de garçons à Port Sikoum dans l'état de l'Yobe alors que les élèves tenaient leur réunion du matin. Selon Emmanuel Ojukwu, le porte-parole de la police, c'est l'œuvre d'un kamikaze et il y a eu au moins 47 morts et 79 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais Boko Haram est pointée du doigt. Elle intervient au lendemain de la publication d'une nouvelle vidéo d'Aboubakar Shekau qui a été annoncée plusieurs fois mort. Dans cette vidéo, le chef de Boko Haram réaffirme avoir créé un califat dans les zones conquises par des djihadistes dans le nord-est du pays. Shekau a encore démenti avoir conclu un cessez-le-feu avec le gouvernement et même a menacé de tuer l'homme qui s'était présenté comme le négociateur du groupe avec les autorités d'Abuja.
Sachez aussi qu'un hélicoptère de l'armée nigériane a dû atterrir en urgence dans le nord-est du pays. C'est du moins ce qu'indique un porte-parole de l'armée cité par l'agence France Presse. Il contredit ainsi la version de témoins et d'une source sécuritaire qui affirmait que l'appareil s'est écrasé avec plusieurs étrangers à son bord.
Dans le sud-ouest du Niger, dans la zone de Birnin-Koni, de violents affrontements entre des agriculteurs et des éleveurs ont fait au moins 8 morts et 13 blessés samedi à Tantounou. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui les autorités locales. Les confrontations à l'arme blanche ont éclaté lorsqu'un troupeau de vaches a dévasté un champ de haricots. Plus sur ces violences en deuxième partie de cette édition.
Visite à Ouagadougou du président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État mauritanien, Mohamed Oud Abdelaziz. On se rappelle que l'Union avait donné 2 semaines aux militaires burkinabés pour transférer le pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Mais à son arrivée à Ouagadougou aujourd'hui, le président Mohamed Oud Abdelaziz a adopté un ton plutôt conciliant.
L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Ils sont venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Nous regrettons au niveau de l'Union africaine ce qui s'est passé. Les pertes humaines, nous les regrettons, nous prions pour eux. Et nous souhaitons aussi prompt rétablissement pour les blessés. Ils ne sont pas venus pour sanctionner, ils sont venus pour aider nos frères du Burkina, qui doivent eux-mêmes trouver leur solution pour que la solution reste et sorte du peuple burkinabé.
Déclaration du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Oud Abdelaziz, envoyé par notre correspondant Zoumana Wonogo.
Lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'ONG Médecins sans frontières demande des stratégies flexibles pour contenir les nouveaux petits foyers d'épidémie apparus au Libéria. Bien que le nombre de cas d'Ebola ait diminué ces dernières semaines au Libéria, l'épidémie est loin d'être maîtrisée et de nouveaux foyers continuent de se déclarer dans tout le pays, indique MSF dans un communiqué diffusé aujourd'hui. Rappelons que le Libéria compte pour plus de la moitié de près des 5000 morts d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Notez aussi que l'opérateur de satellite luxembourgeois SES annonce le lancement d'une chaîne gratuite de sensibilisation au virus Ebola. Fight Ebola sera diffusée par 2 satellites et devrait atteindre environ 20 millions de personnes sur le continent africain.
Reprise des combats au Soudan du Sud, les rebelles dirigés par Riek Machar accusent les forces gouvernementales d'avoir lancé des attaques coordonnées dans les états d'Unité et du Haut-Nil. Des bases rebelles dans l'état de Jonglei auraient également été soumises à d'intenses bombardements d'artillerie. Ces violences interviennent à peine 48 heures après de nouvelles négociations sous médiation est-africaine pour arriver à un cessez-le-feu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama s'est adressé ce lundi au sommet Asie-Pacifique. Le chef de l'exécutif américain a réitéré aux hommes d'affaires présents dans la capitale chinoise l'engagement des États-Unis à investir en Asie. Jean-Roger Bion.
Les autorités américaines considèrent ce sommet comme un espace privilégié pour mettre en place des modalités de prévention des conflits dans la région, tout en faisant des progrès sur les questions commerciales, le cyberespace et le climat. Dans son discours au chef d'entreprise, M. Obama a annoncé qu'une nouvelle politique de visa entrera en vigueur cette semaine entre la Chine et les États-Unis. Le président américain a également souligné l'importance de la coopération économique entre les deux pays.
The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful and stable China.
Les États-Unis se félicitent de l'émergence d'une Chine prospère, pacifique et stable. Je tiens à le répéter.
Le président américain a également fait la promotion d'un plan de Washington pour les 12 États de la région, dénommé Partenariat Transpacifique. Le plan est controversé parce qu'il exclut la Chine et est en concurrence avec le projet de Beijing de former une zone asiatique de libre-échange. Le président Obama quitte Beijing mercredi pour sa deuxième visite au Myanmar, appelé aussi Birmanie. Il va y participer à deux sommets de l'Asie de l'Est avant de se rendre en Australie pour une réunion du G20.
Par ailleurs, le président Obama a eu une brève rencontre à Pékin avec son homologue russe, Vladimir Poutine, en marge du sommet de l'APEC. Un responsable qui a requis l'anonymat a dit que les deux hommes n'ont pas parlé de l'Ukraine.
Deuxième journée de pourparlers à Oman sur le programme nucléaire iranien. Le secrétaire d'État John Kerry, son homologue iranien Mohamed Javad Zarif et Catherine Ashton, qui représente l'Union européenne, tentent de trouver un accord à deux semaines de la date butoir du 24 novembre. Des obstacles majeurs persistent cependant sur l'enrichissement d'uranium en Iran, les inspections étrangères et la levée des sanctions économiques.
L'Iran affirme avoir effectué un essai réussi d'un drone américain qu'il a copié. Le leader suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui s'est fait photographier avec l'appareil, se dit satisfait du succès de cette initiative. Le modèle iranien serait basé sur un drone intercepté en 2011 dans l'espace aérien de l'Iran. Selon Washington, le crash du drone était dû à des problèmes techniques.
En Afghanistan, au moins 10 personnes sont mortes ce lundi dans une nouvelle série d'attentats à la bombe contre les forces de sécurité et les populations civiles. Ces explosions ont eu lieu dans trois régions, à Logar, Jalalabad et Kaboul. Selon les talibans, le bilan est plus élevé à Logar et Jalalabad, les deux attentats qu'ils ont d'ailleurs revendiqués.
Le groupe djihadiste le plus meurtrier de l'Égypte, Ansar Beit al-Maqdis, a fait allégeance au chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, qu'il appelle calife. Al-Maqdi appelle les autres adeptes de l'islam à le suivre. Selon des hauts responsables irakiens, Abu Bakr al-Baghdadi serait blessé vendredi dans une frappe aérienne, mais le Pentagone n'a pas confirmé l'information.
Une jeune Israélienne a été tuée à coups de couteau lundi par un Palestinien qui a blessé deux autres Israéliens avant d'être à son tour grièvement blessé par un garde près d'une colonie en Cisjordanie occupée. C'est ce que rapporte l'AFP citant la police et les services de secours. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, il est 18h39 en temps universel. 13h39 ici à Washington, chez Romain Lorsil et Morgane Guerriac en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Nous commençons au Burkina Faso. Le projet de charte de la transition adopté dimanche a été remis ce matin au chef de l'État intérimaire, le lieutenant-colonel Yacouba Zida. Le projet de charte de transition indique que la répartition des postes ministériels doit prendre en compte les femmes, les jeunes, les syndicats et les Burkinabés de l'étranger. Abdoul Karim Sango est un juriste et membre de la société civile. Bagassi Koura l'a joint à Ouagadougou.
Au lendemain de la démission du président Compaoré, la classe politique et la société civile, notamment les organisations de promotion de la démocratie et des droits de l'homme ont jugé utile, au regard un peu du désordre qui tendait à s'installer et des interventions un peu ici et là des uns et des autres. Je crois qu'à la convocation du chef de l'opposition, les partis d'opposition et les organisations de la société civile ont décidé de travailler de concert, de sorte à mieux coordonner leurs activités.
Alors, on sait que l'armée était attendue et finalement, elle n'a pas participé aux travaux. Est-ce que cela ne joue pas un peu sur la qualité du document qui a été proposé?
Non, je pense que les forces légitimes qui ont concouru à la révolution démocratique du 30 octobre, si je ne m'abuse, qui ont concouru évidemment à mettre fin au règne sans partage du président Compaoré, sont constitués essentiellement des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. L'armée, en fait, est venue par à-coups pour éviter qu'il y ait un bain de sang massif.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette charte? Quels sont les principaux points?
Disons que, principalement, cette charte vise à compléter la Constitution. Vous savez qu'une des exigences aujourd'hui, c'est que la Constitution puisse être rétablie. Mais vous savez en même temps que certaines dispositions de la Constitution ne pourront pas être mises en œuvre, notamment les dispositions relatives au président du Faso, les dispositions relatives au gouvernement qui est sorti, qui n'est plus là, les dispositions relatives à l'Assemblée nationale. Donc la charte, en fait, crée des organes de transition. Donc, évidemment, un président de la transition, un gouvernement de la transition et une Assemblée nationale de la transition. La charte crée par ailleurs un certain nombre d'organes techniques. Par exemple, la charte crée une sorte de commission de réconciliation, une sorte de commission justice et réconciliation et vérité.
Abdoul Karim Sango, juriste et membre de la société civile au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Centrafrique, les leaders des trois principales communautés religieuses reconnaissent les faiblesses de la transition. Invité sur la Voix de l'Amérique, le pasteur Nicolas Guéré-Koyamé, Gbangbou, l'imam Omar Kobine Layama et l'archevêque Dieudonné Zapalenga se sont exprimés sur la crise centrafricaine depuis Washington. Sur la gestion de Catherine Samba-Panza, les trois leaders reconnaissent les faiblesses de la présidente de la transition, fragilisée par les accusations de détournement du don angolais. Écoutez cet extrait de l'émission qui sera diffusée jeudi dans Washington Forum avec Nicolas Pineau.
Un gouvernement qui n'a ni gendarmes, ni police, ni militaires au niveau sécuritaire ne pourra rien faire. Si on dit que le gouvernement a sa part dans la sécurisation du pays, il faudrait lui faciliter cette tâche, que la communauté internationale aide ce gouvernement à remettre les forces de sécurité en place, à les équiper. Il y a un problème qui se pose sur le plan financier. Le gouvernement aussi peine à payer les fonctionnaires.
Et sur l'affaire des 10 millions, par exemple, donnés par l'Angola, qu'est-ce que vous pensez de la gestion millions, et de ces soupçons qui ont porté sur l'utilisation de ces
fonds? Les soupçons, les conseillers nationaux du Parlement de transition se sont prononcés là-dessus.
Il n'y a pas de commission d'enquête. La commission d'enquête a été repoussée.
La commission d'enquête a été repoussée. Nous sommes là peut-être pour voir si ça passe bien, on encourage. Si ça ne passe pas bien, nous sommes des conseillers moraux.
Alors justement, Monseigneur, est-ce que ça passe bien justement cette transition?
Ayant entendu, ayant aussi regardé, effectivement, si cet argent n'a pas été utilisé à bon escient, nous condamnons. Cet argent est envoyé pour le peuple centrafricain. Il ne peut pas prendre une autre direction. Donc il faudrait être clair là-dessus. Par contre, si aujourd'hui on regarde l'État ou bien le fonctionnement de gouvernement, on se rend bien compte que c'est un gouvernement qui a des moyens limités, qui dépend essentiellement de l'extérieur, n'arrive même pas à assumer ses fonctions régaliennes.
Pasteur Bongo, allez-y.
Oui, je dis que lorsqu'on reproche à la présidente de la transition une certaine lacune, une faiblesse, oui, il y a une faiblesse, mais nous devons quand même dire courageusement que depuis un certain nombre d'années, les autorités centrafricaines n'ont pas les mains libres dans la direction des affaires centrafricaines, dans la direction des affaires politiques de notre pays. Il faudrait qu'il y ait moins d'ingérence du côté de la communauté internationale. Et on ne peut pas être conseiller et en même temps se mettre au devant de la scène. Moi, je suis membre du Parlement de transition du CNT. Nous avons condamné cette mauvaise gestion du don angolais. Mais qu'est-ce qui a empêché la mise en place de la commission d'enquête parlementaire? Mais c'est encore cette même communauté internationale, à travers l'envoyé spécial du médiateur international de la crise centrafricaine, qui est venu dire « Non, vous faites trop de bruit autour de ça et il faut sursoir à cette enquête parlementaire ». Alors, quand c'est comme ça, à qui revient la faute?
Voilà, c'était Nicolas Guéret, Koyame Gbongou, Omar Kobin Layama et Dieudonné Nzapalenga, les trois leaders religieux centrafricains, invités cette semaine de Washington Forum.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Dans le sud-ouest du Niger, au moins 8 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans une violente confrontation entre des agriculteurs et des éleveurs dans la zone de Birnin-Koni, non loin de la frontière avec le Nigeria. Les affrontements à l'arme blanche ont éclaté lorsqu'un troupeau de vaches a dévasté dans la nuit un champ de haricots. Il a joint au Niger Haroun Maman Bako, directeur de la radio Mia FM, notre partenaire à Birnin-Koni.
Dans la commune d'Alela, c'est dans le département de Birnin-Koni, à quelques kilomètres du Nigeria, il y a eu des affrontements entre les habitants sédentaires du village de Alela et les nomades habitants d'un village qu'on appelle Ntoudou. Les villageois de Alela ont accusé ceux de Ntoudou d'avoir fait pénétrer leurs animaux dans leur champ. Dans la nuit du jeudi, il y a eu 4 morts côté sédentaire, côté villageois d'Alela. Les autorités se sont déplacées pour tenter de calmer les esprits, mais ça n'a pas quand même empêché les sédentaires du village de Alela de répliquer dans la matinée du vendredi, ce qui a causé la mort de 4 autres personnes. Aussi, il faut noter qu'il y a eu 7 blessés graves qui sont actuellement à l'hôpital de Calmi.
Est-ce qu'on a l'habitude d'avoir de telles violences entre agriculteurs et éleveurs dans la région?
Oui, à pareil moment, à la fin de l'hivernage, c'est toujours des moments d'inquiétude parce que les agriculteurs n'ont pas terminé leur récolte parce qu'entre autres, ils laissent le nébier et autres sorgho qui ne sont pas en fin de terminaison. Mais les éleveurs parfois profitent des moments nocturnes, des nuits, pour faire pénétrer leurs animaux dans les champs des agriculteurs afin de brouter un peu, que ce soit les pailles ou bien les arbres. Et c'est ça qui se transforme parfois en des disputes. À pareil moment, sur l'ensemble du Niger, c'est un moment où les autorités ont les yeux braqués dans les champs.
C'est très cher payé pour des haricots, non?
Oui, le haricot fait partie des récoltes qui amènent énormément d'argent aux agriculteurs au Niger parce que c'est avec ça que d'autres se marient, que d'autres achètent des motos, que d'autres construisent dans la majorité, dans les 3/4 du Niger dominé par le monde agricole. Les gens travaillent seulement 3, 4, 5 mois durant l'année entre avril, mai, jusqu'en octobre, jusqu'en décembre. C'est avec ça qu'ils arrivent à survivre le restant de l'année jusqu'à l'arrivée du hivernage prochain.
C'était Haroun Maman Bako, directeur de la radio Mia FM, notre partenaire à Birnin-Koni, au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'État gabonais a porté plainte en France contre le journaliste Pierre Péan pour des propos qualifiés de gravement diffamatoires dans son dernier ouvrage intitulé « Nouvelles affaires africaines ». Le journaliste français accuse le président Ali Bongo Ondimba d'avoir falsifié son acte de naissance et ses diplômes. Idriss Fall a joint à Paris notre confrère Pierre Péan qui explique d'abord pourquoi ce livre.
J'avais fait un livre en 1983, Affaires africaines. 30 ans après, j'ai voulu faire une suite. Ça concerne évidemment à la fois la politique gabonaise, les relations entre le Gabon et la France, les questions qui se posent et qui vont se poser dans les prochaines élections de 2016.
Et vous vous en prenez particulièrement au fils Bongo, notamment sur son acte de naissance.
Je m'en prends pour une raison très simple, c'est qu'il y a un article 10 de la Constitution qui a été fait par le père, Omar Bongo, en 1990, qui explique qu'on ne peut pas être président du Gabon si on est enfant adopté. Qu'il est évident que s'il n'y avait pas cet article 10, je n'aurais pas parlé des origines d'Ali Bongo. Je raconte effectivement qu'Ali Bongo est né au Nigeria, dans la province du Biafra.
Mais il y a déjà sa sœur Pascaline Bongo Ondimba qui dit que tout ça, c'est absolument faux.
Eh bien écoutez, c'est son droit le plus strict de dire que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Et j'ai trouvé beaucoup de témoins. Écoutez, on verra bien, puisque manifestement, le Gabon a décidé de me faire un ou des procès. Mais moi, je maintiens que Ali Bongo n'est pas né à Brazzaville, comme il le dit, mais qu'il est né dans la province du Biafra.
Et pourquoi vous sortez ça maintenant et pas avant?
Tout simplement, si vous lisez les journaux de l'opposition, vous verrez que cette question-là, et avant mon livre, va s'imposer comme le thème sans doute principal de la prochaine campagne présidentielle en 2016. C'est déjà lancé dans l'opposition.
Et qu'en est-il des diplômes alors?
Deux choses. Il dit qu'il est docteur en droit, et moi je dis qu'il a seulement un diplôme de géographie. Et que d'autre part, je raconte comment il a eu son bac de façon, le moins qu'on puisse dire, très bizarre. Donc je raconte comment ça s'est passé, pourquoi, comment.
Mais ce n'est pas la première fois que vous publiez des brûlots et qu'on porte plainte contre vous quand même.
Oh, j'en suis à 50 procès au moins, 50. Donc j'ai l'habitude. Les chefs d'État africains m'ont jamais attaqué directement, c'est la première fois. Lors d'affaires africaines, j'avais une douzaine de procès, mais pas du tout du chef d'État.
C'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Il y a plus de deux décennies depuis que l'intrépide Chimita El Diego, grand chanteur et danseur de talent congolais évoluant à l'époque au sein de l'orchestre Grand Zaïko Wawa de Pepe Feli Manuaku, avait quitté la RD Congo pour suivre une formation musicale en Europe. On écoute ce soir dans Bayaka.
Chimita El Diego est actuellement en studio pour finir son prochain album, mais pour donner un avant-goût à ses fans, il a décidé de sortir son maxi-single Bayaka.
Oui Morgane, à ses fans qui sont éparpillés partout dans le monde. Chanteur, devenu producteur et propriétaire d'une maison de production, Chimita El Diego est objet de nombreuses sollicitations de la part de ses collègues, artistes prestigieux venant de tous les horizons pour des featuring.
Chimita El Diego, Bayaka. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Sous-titrage Société Radio-Canada. pema ya kapoto kumbana mame
à l'écoute du Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
Peter Handley était à la console technique, rendant encore beaucoup plus parfaite la production de Michel Joseph. C'est la fin de cette édition.
Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Morgane Guiriec
et Chérubin Dorsil.